c'est ?
Dévoration.
Dévoration, une thématique antenne nourrissante pour le corps et l'esprit, vous propose à la carte des mix du jour, des chroniques maison et des lectures cannibales, mais aussi à l'occasion de la manifestation Terroir 13 à l'hôtel du département, des grands entretiens avec des chefs talentueux et des plateaux radio pour mettre en débat les modes de culture et les arts du goût. Sucré maison, ce plateau enregistré dimanche à Saint-Just, vous propose une petite heure de douceur dans un monde de brut. Ici, tout n'est que luxe, calme et volupté. Les murs sont en pain d'épices et le toit en chocolat. Des rivières de miel coulent paisiblement au milieu d'un verger où l'on cueille tous les fruits de la terre. Tout ça passerait pour une image pieuse ou une vue de l'esprit s'il n'y avait le travail des hommes et leur savoir-faire. Capable de sortir d'une ronce ou d'un tas de cailloux, des délices du palais qui font le régal de tous, ou presque. Sucré maison, ça n'est pas qu'un clin d'œil, on va très sérieusement s'intéresser au miel et aux fruits, aux desserts qui sont peut-être 13 et probablement plus si affinité. Et puis sucré, sucré salé, comment les goûts se mélangent et comment les cultures se métissent. Et encore maison, sweet home et terroir, comment la gastronomie qu'on découvre au restaurant s'inscrit au travers d'ateliers et d'échanges de savoirs au quotidien, dans le partage et la convivialité. Autour de cette table, pour faire fructifier la discussion, Philippe Picard, représentant l'ADAPI, association des producteurs de miel, qui nous dira si les apiculteurs sont happy. D'ailleurs, il y en a deux avec nous aujourd'hui d'apiculteurs, Rémi Brun et Sylvère Bru. Autour de cette table aussi, Étienne Colliot, directeur adjoint de la Chambre d'agriculture, avec qui on verra comment l'économie des producteurs de fruits du terroir s'accommode des marchés du village global. Et puis Monsieur Ménot nous parlera de ces chocolats que l'on trouve dans sa boutique Chocoatl, ses grands rues. Et peut-être aurons-nous des traditions, une vision d'un nouveau monde. Jean-Marc Biojou du Conservatoire des Cuisines, association qui a pour but de promouvoir les cuisines méditerranéennes, nous dira tout à l'heure, dans quelques minutes, le temps pour lui d'arriver et de garer sa voiture. Il nous dira si les terroirs ont des frontières autour de cette Mare Nostrum. Enfin, Christian Ernst, qui après le Charles Livon dirige maintenant Le Moment, place Sadi Carnot, un restaurant qui bouscule et marie les genres. Bonjour à tous.
Bonjour.
Christian Ernst, j'évoquais Le Moment, c'est votre présent, mais votre passé, ou plutôt votre parcours, parce que vous n'êtes pas si vieux que ça, n'est pas moins intéressant, j'imagine. Votre parcours, c'est un parcours sucré-salé ?
Sucré, oui, parce que bon, j'ai fait les championnats de France de pâtisserie, et j'avais été finaliste dans les années 92. Et puis salé, parce que bon, ben forcément, on a un dérivé sur le salé parce que j'ai une formation de cuisinier à la base, mais je me suis beaucoup intéressé à la pâtisserie parce que ça requiert une précision et une justesse qui m'intéressent. Et je pense que de toute façon, pour être bon, il faut avoir des grosses notions de pâtisserie pour pouvoir pratiquer la cuisine avec beaucoup de finesse, de délicatesse et de précision.
C'était votre vocation initiale de pratiquer la pâtisserie ou c'est quelque chose qui s'est décidé un peu comme ça et c'était au fond la cuisine que vous envisagiez ?
Non, c'était tout à fait le hasard puisque un poste s'est libéré dans une maison et on m'a dit tiens, ça t'intéresse ? J'ai dit oui. Mais bon, j'avais pas de base de pâtisserie au départ, hormis les bases scolaires, donc j'ai appris la pâtisserie avec un chef pâtissier qui m'a un petit peu formé, ça m'a beaucoup intéressé. Puis après, bon ben. Le travail, quoi. Et voilà, je crois qu'il n'y a que ça, quoi.
Parlons justement de formation. Pour vous, l'école du goût, ça a été quoi ou ça a été qui ?
L'école du goût, je crois que, enfin, en ce qui me concerne, elle s'est fait de manière assez personnelle, avec le temps, l'expérience, les voyages, les rencontres. Bon, bien sûr, il y a toujours des maîtres ou des instigateurs qui poussent dans un sens ou dans un autre, parce qu'on est toujours influencé par... des professionnels, on est toujours marqué par des gens qui ont la connaissance ou la maîtrise. Forcément, quand on a 17, 19, 20 ans, 22 ans, bon, on est forcément sous l'influence de quelqu'un. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est d'être influencé par des gens qui ont des bases solides, des fonds solides et qui ont envie de transmettre. On sait qu'on a des professions avec des transmissions très très lourdes, on sait que c'est très dur. Et ça fait partie de la difficulté un petit peu du métier. Et plus on monte en gamme, et plus on rencontre de problèmes justement de transmission, puisque la transmission est de plus en plus lourde avec le niveau qui augmente. Donc on est influencé, je pense, par les maîtres ou par les gens. Et puis après, on est influencé par nos parcours personnels, puisque bon, je crois que quand on fait de la pâtisserie ou de la cuisine dans un hypercentre ville d'une grande ville, on a forcément une image ou une obligation totalement différente que quand on fait de la pâtisserie dans une zone rurale ou dans une montagne, ou peu importe que ce soit dans un relais château ou pas, mais forcément on est plus orienté sur quelque chose de contemporain quand on est entouré d'une vie contemporaine, et on fait quelque chose de plus traditionnel. Bon, une fois de plus, ça n'a rien à voir avec la qualité, hein, on parle juste de sensations. Quand on fait quelque chose de plus traditionnel, quand on vit peut-être à la montagne ou dans un mas ou proche de la pierre ou des matières. Et puis après, je crois que la base de tout, enfin en tout cas pour nous, je crois que c'est de se faire plaisir. Et forcément, on fait plaisir aux gens quand on éprouve du plaisir à faire ce qu'on fait, quoi.
Ces sensations, il faut commencer à les avoir, à les développer le plus tôt possible, j'imagine. À quel moment est-ce que vous avez senti cette vocation ? Et peut-être est-ce qu'aujourd'hui, votre cuisine, elle est nourrie des souvenirs de votre enfance ?
Ben non, moi je suis pas partisan du cliché. Je cuisinais avec mamie quand j'étais petit. Bon, j'ai l'impression d'entendre un peu toujours la même chose. Alors c'est pas que je veux déroger parce que quoi, mais pour moi j'ai jamais cuisiné avec ma grand-mère ou quoi. Bon, c'est vrai que je me suis intéressé aux livres de cuisine et je me rappelle en avoir eu un en cadeau à l'âge de 8 ans. Et bon, du coup je faisais des trucs très simples, type crêpes ou gâteaux. Ça m'a toujours plu. J'ai toujours envie de faire ça. Mais je crois que j'ai plus eu envie de faire ça par notion de partage, d'échange et de communication et de plaisir. C'est plus dans l'idée de créativité, de création de plats, de design alimentaire, esthétique, qualitatif, de goût, que à la base d'avoir eu une grand-mère, même si elle était réellement cuisinière, puisqu'elle était cuisinière, ma grand-mère. C'est pas du tout elle qui m'a influencé, et encore moins mes parents qui étaient dans un secteur tertiaire de bureau, qui voyaient en le métier de cuisinier quelque chose de, sans dire négatif, parce qu'ils m'ont jamais empêché, mais de difficile, de dur. Bon, même s'ils ont raison, c'est quand même passionnant, quoi.
En revanche, vous allez probablement influencer une génération d'enfants, puisque je crois que dans votre restaurant, le moment, je le rappelle, vous accueillez des ateliers qui ne sont pas uniquement destinés aux adultes, mais qui sont aussi destinés aux enfants.
Absolument. On a pris ce parti de faire des cours pour enfants avec une intervenante assez spécialisée. On travaille beaucoup sur le bio, avec des produits bio. La découverte du goût pour les enfants, ça va de 4 à 12 ans, donc vraiment on commence petit. Sur des choses très simples, la volonté de faire des pâtisseries maison plutôt que d'acheter des biscuits industriels. On essaie de montrer aux parents, puisqu'on fait des ateliers papa-enfant et parents-enfant, pour montrer que d'une manière ludique, en une heure ou en trois quarts d'heure, sans beaucoup de moyens, juste avec une démarche, on peut faire quelque chose de très bien pour toute la famille, que ce soit dans le monde du sucré ou dans le monde du salé.
Ou dans le monde du sucré-salé, puisqu'on a peut-être tort d'opposer les deux ou de considérer que ce sont deux extrémités du spectre de la création pour un cuisinier ou pour un restaurant. On voit de plus en plus aujourd'hui se développer des goûts sucrés-salés, peut-être une influence d'une cuisine en provenance d'Orient. Qu'est-ce que vous pensez du développement des goûts sucrés-salés ? Est-ce qu'à votre carte ou dans vos menus, il y a des plats qui allient le sucré et le salé ?
Alors oui, il y en a. Bon, c'est pas un axe principal. Il y a toujours des notes sucrées-salées dans certains plats. Moi, je pense que ça a été forcément une grande mode des années 95-2000, la cuisine fusion, avec tous ces, j'allais dire, ces jeunes chefs entre 20 et 30 ans qui ont su s'exporter très tôt à l'étranger, qui se sont influencés des cuisines asiatiques, orientales. Et donc, ils sont revenus avec ce qui existait depuis déjà des centaines d'années. Hein, je veux dire, bon, il n'y a pas de quoi s'affoler quand on ramène du tandoori ou du curry. Mais bon, je crois qu'on a réactualisé un petit peu, on a mélangé. Hein, la fusion food, c'est un peu ça. C'est le mélange de la cuisine européenne, contemporaine et de la cuisine un petit peu étrangère, notamment asiatique, où on utilise beaucoup les laquages et les sucrés salés. Mais on utilisait ça quand même depuis relativement longtemps. Maintenant, je pense qu'en Europe et notamment en France, ça ne fait pas trop partie de la culture à la base, quoi, traditionnelle. Mais je pense que c'est vraiment rentré dans les mœurs, par contre.
Jean-Marc Biojou vient de nous rejoindre à l'instant. Bonjour. Je rappelle que vous travaillez pour Bonjour. Le Conservatoire des Cuisines. Alors, à l'instant, on parlait de ces goûts sucrés-salés qui ont été très en vogue dans les années 80, qui le sont peut-être un peu moins aujourd'hui. Des goûts qui étaient d'une grande inspiration orientale, et notamment autour de la Méditerranée. Ce sucré-salé, ça correspond à une histoire du goût qui n'est peut-être pas l'histoire de la gastronomie française, comme le précisait à l'instant Christian Ernst, mais qui en tout cas est-ce que ça serait une constante dans la gastronomie méditerranéenne, cette alliance du sucré et du salé? Jean-Marc Biojou.
Bonjour, je ne suis pas un grand spécialiste, mais c'est vrai que nous avons les expériences de rencontres. Effectivement, nous avons eu des expériences avec des cuisiniers turcs et des producteurs turcs. Effectivement, il y a des échanges comme ça, sucré-salé, qui sont assez intéressants. Nous travaillons aussi pas mal avec les Italiens et qui ont aussi des expériences comme ça culinaires qui sont assez intéressantes. Nous étions au mois de novembre 2008 justement sur à Cesena, et effectivement nous avions un stand à côté de nous qui ne me proposait que des plats comme ça sucrés-salés.
Alors nous sommes ici, je le rappelle, dans une manifestation qui s'intitule Terroir 13, qui présente un inventaire des goûts et des saveurs du département et au-delà de la Provence. Jean-Marc Biojou, est-ce que pour vous, au-delà, la Méditerranée, c'est un terroir?
Oh, ça, c'est une bonne question.
Est-ce qu'on peut élargir la notion de terroir à cette dimension-là?
Pour moi, oui, puisqu'on peut... Nous avons quand même pas mal de produits qui sont communs. Mais je pense que si vraiment les spécialistes et les puristes, peut-être me taperaient dessus, ça c'est sûr. Ça c'est clair, puisque bon, il y a une définition hein, très précise de ce qu'on appelle le terroir. Nous on travaille plus par.
Un sol, un climat, voilà. Et surtout un environnement humain, et là c'est surtout cette dimension humaine.
Voilà, c'est surtout ça. Terroir. Hein, et surtout sur cette notion d'origine de produits qui viennent du pourtour méditerranéen, que nous retrouvons chez nous. Et donc on pourrait dire qu'on a un terroir commun, mais au sens vraiment très large du terme. Voilà.
Votre travail dans le cadre de ce conservatoire des cuisines, c'est évidemment de conserver, mais pas de conserver de manière figée, de manière statique. C'est conserver des traditions culinaires, les faire échanger entre elles, mais surtout avoir un patrimoine vivant, j'imagine. C'est-à-dire évolutif.
Oui, le mot conservatoire est né comme ça, si vous voulez, mais il n'est pas du tout ancré dans une définition de on maintient à l'identique, on ne bouge pas.
C'est un conservatoire sans édulcorant ni conservateur.
Voilà, oui, voilà. Il n'y a pas de conservateur. Au contraire, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'initiatives, que lorsqu'on fait des rencontres dans les villages, notamment, puisqu'on travaille beaucoup avec les producteurs et les restaurateurs locaux, hein, puisque le principe est vraiment de se faire découvrir les uns les autres et de faire découvrir au public des communes, les restaurateurs, les producteurs locaux. Effectivement, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal d'initiatives et qu'il y a des choses... Il y a du renouvellement permanent. Voilà.
On se retrouve dans quelques secondes pour continuer cette discussion depuis le salon Terroir 13. On va y aborder le miel, notamment avec les producteurs de miel qui sont venus nous rejoindre sur ce plateau. Pour l'instant, on fait dans l'oignon, les oignons, un titre de Sidney Bechet, mais réinterprété par Aldo Romano. Thank you. secret maison dans la thématique antenne dévoration, ce plateau enregistré dimanche à l'occasion du salon Terroir 13. Il n'est pas de bonne cuisine sans bons produits, un axiome généralement admis dans le monde des cuisines et des cuisiniers, un axiome assez général. On va se tourner maintenant vers quelques-uns des produits de ce terroir, et notamment du terroir de la Provence et des Bouches-du-Rhône. Philippe Picard, peut-être quelques mots sur l'ADAPI, le rôle de cette association.
Alors l'ADAPI est une association qui fait partie de toutes ces structures qui participent au développement de l'agriculture. Donc l'ADAPI s'occupe particulièrement de l'apiculture professionnelle de la région PACA. C'est l'équivalent, si vous voulez, d'un service de chambre d'agriculture. Hein. Et sa vocation, elle est à la fois technique, donc aider les apiculteurs professionnels à améliorer leur technique de production, à comprendre les problèmes qu'ils peuvent avoir sur leur colonie d'abeilles. Et c'est également un travail de développement économique. Donc c'est aider la filière à mieux gérer ses débouchés commerciaux, à trouver des moyens de valoriser ses produits. Et ça s'illustre notamment par quelque chose qui est très très visible par le consommateur, notamment les démarches qualité, donc avec les signes de qualité.
Ce soutien technique, c'est à la fois une formation initiale et puis une formation permanente ensuite qui est apportée à l'ensemble des apiculteurs de la région.
Alors,
comment devient-on apiculteur en fait ?
Alors il faut déposer peut-être la question aux apiculteurs. Je crois que la filière apicole en particulier regroupe des personnes qui ont des trajectoires extrêmement variées. On commence à retrouver, parce que finalement l'apiculture professionnelle est une profession assez jeune, on commence à retrouver des fils d'apiculteurs, ce qui n'était pas le cas avant-guerre. Par contre, au sein de la filière apicole, on a des ingénieurs aéronautiques qui ont complètement lâché cette profession et qui sont devenus apiculteurs. On a des gens qui étaient dans le tertiaire, on a des fonctionnaires qui ont même abandonné leur statut pour devenir apiculteurs. Donc c'est extrêmement varié et ça en fait du coup une profession très riche.
Bon, on va justement poser la question à Rémi et Silver. Qu'est-ce que vous faisiez avant d'être apiculteur ? Enfin, si vous aviez éventuellement une profession avant.
Ben moi, c'est un peu particulier. C'est Silver Bru. Je suis installé à Grans. Ça a sauté une génération, en fait. C'est mon grand-père qui a une quarantaine de ruches sur Gignac-la-Nerthe. Donc, j'allais l'aider l'été. C'était plus contraignant qu'autre chose parce que j'étais le seul des petits cousins à aller faire les récoltes avec papy, deux ruches par deux. C'était un peu... Mais ça me plaisait. Et puis un jour, il est tombé malade. Il m'a dit, écoute, il y a ces 30 ruches là qui restent. Occupe-toi-en et tu verras. Tu prendras le miel à la fin de l'année. Et un jour, bon, ben voilà, je m'en suis occupé toute une saison. Et d'être sur place tout seul sur les ruches, j'ai commencé à avoir du plaisir à travailler avec les abeilles. Ce contact m'a plu. Il voulait surtout pas que je fasse l'apiculture à plus grande échelle. Donc après, j'ai continué, j'étais dans le technique, je faisais du sport. Et à un moment, c'est revenu, j'ai dû faire le service militaire. Je l'ai fait à l'ADAPI en tant qu'objecteur de conscience. Et là, j'ai été mis en contact avec les apiculteurs professionnels.
Silver, quand vous parliez à l'instant de ce grand-père qui ne voulait pas que votre exploitation devienne quelque chose à grande échelle, c'est quand même quelque chose qui est très lié à l'artisanat, à l'apiculture. On voit rarement des usines à miel. Ou alors, est-ce qu'il y en a quelques-unes ?
Oui, non. Ce qu'il voulait dire, en fait, c'était que lui, il était amateur. Donc, il avait un métier à côté. Il faisait ça pour son passe-temps. Ce qu'il voulait... Voilà. Il me disait... les apiculteurs professionnels ont entre 200 et 600 colonies. Et ça existe des plus grosses exploitations. Hein. Mais il avait peur que je fasse ce métier. Voilà, il avait peur parce qu'il trouvait que la flore changeait.
Les conditions économiques, peut-être pas voilà, faciles non plus.
Aussi, surtout, il me disait toujours, il y a eu la maladie en 1972 ou 1974 de Varroa Jacobsoni, qui est venu d'Asie. Et depuis, lui, il a perdu beaucoup de ruches. Donc, il avait peur. Il me disait, on n'en fait pas un métier de l'apiculture.
On va en reparler à l'instant, justement, avec Philippe et l'ADAPI de cette aide aussi, qui est une aide non seulement technique, mais aussi sanitaire pour identifier les maladies. Peut-être, Rémi, est-ce que c'est aussi une histoire de famille, l'apiculture ?
Oui, dans le sens où, avec moi, en fait, ça fait la cinquième génération, exactement, d'apiculteurs. Oui, voilà. Donc là, pourquoi on est tombé dedans, tous comme ça ? Ben, en fait, on a suivi. C'était plus un... Voilà, en fait, c'est mon arrière-arrière-grand-père qui a commencé en 1883, donc à Saint-Rémy-de-Provence. Et pourquoi continuer tout ça? Ben, je sais pas, voilà, on est tombé dedans, comme un peu comme Obélix dans la potion, mais nous, dans le miel, on pègue dans la région. Voilà, donc c'est vrai qu'on est toujours été dedans. Et donc voilà.
Philippe Picard, tout à l'heure, Silver évoquait cette maladie qui a, semble-t-il, décimé les populations d'abeilles il y a quelques années. C'est vrai que c'est une population fragile. Elle est fragilisée par des maladies, éventuellement comme celle-là. Elle est aussi fragilisée, il faut bien le dire, par une agriculture autour qui n'est pas toujours totalement respectueuse de l'environnement. On a évoqué il y a quelques années, des pesticides qui étaient redoutables, notamment pour les populations d'abeilles. Est-ce que vous concourez à une information et à un dialogue entre les différentes professions de la filière agricole pour que ça soit un peu plus respectueux les uns des autres ?
Je crois que d'une manière générale, les agriculteurs se respectent entre eux. Ensuite, il faut arriver à les mettre autour de la table pour discuter et puis essayer que les uns discutent avec les autres pour finalement cohabiter, quoi. Donc c'est notamment le rôle de l'ADAPI que d'essayer de mettre autour de la table les agriculteurs et les apiculteurs. Et si on prend simplement un exemple en région PACA, c'est l'exemple des relations très constructives qu'il peut y avoir entre les lavandiculteurs, donc culture très emblématique de la région, et les apiculteurs qui tirent de cette culture plus de 2/3 de la production de miel régional, donc c'est-à-dire le miel de lavande. Donc on travaille avec eux de manière très très précise, et là par exemple ça fait 3 ans, et c'est encore le cas pendant 2 ans, qu'il y a un programme concerté avec ces gens-là pour essayer de travailler, essayer de comprendre les causes notamment de faiblesse des productions ou de dépopulation des colonies d'abeilles quand elles arrivent sur lavande. Il n'y a pas une mise en accusation des uns par rapport aux autres, il y a simplement la nécessité de discuter pour trouver des solutions en commun.
Étienne Colliot, vous êtes directeur adjoint de la Chambre d'agriculture. Nécessité de dialogue, réalité du dialogue donc entre les éleveurs, en l'occurrence particulièrement les apiculteurs, et puis la Chambre d'agriculture.
Bonjour. Effectivement, c'est notre objectif à la Chambre d'agriculture que ce dialogue s'instaure et que les agriculteurs, toutes filières confondues, travaillent ensemble, cohabitent. Les intérêts des uns ne sont pas les mêmes que ceux des autres. Il faut que tout ça converge, il faut que tout ça travaille au concours au même objectif, à savoir mieux nourrir nos populations, et en particulier dans un département comme les Bouches-du-Rhône, qui est extrêmement urbain. Je crois qu'il y a un enjeu à ce que l'agriculture du département serve à nourrir et à mieux nourrir les habitants du département, même si effectivement l'agriculture du département, c'est pas uniquement nourrir les habitants du département. Il y a beaucoup de productions bucco-rhodaniennes qui se retrouvent sur le marché de Rungis ou à l'étranger.
Philippe Picard l'évoquait, une alliance entre les producteurs de lavande, les lavandiculteurs et puis les apiculteurs. Je pense que le miel de lavande, ça représente quoi dans la production de ce terroir, hein, de la Provence et du sud des Alpes? C'est une proportion non négligeable du miel qui est produit, non ? Rémi.
C'est vrai qu'en production, je ne sais pas ce que ça peut donner en nombre de tonnages par rapport à ce qui se fait. Je sais pas, j'ai aucune
idée. J'ai lu quelque part un chiffre de 60%, mais il me paraissait peut-être exagéré.
Autour de ça,
C'est ça. Effectivement, on considère qu'en région PACA, il se produit chaque année bon an, mal an, hein, parce qu'on est bien évidemment extrêmement soumis aux variations, notamment climatiques. Il se produit à peu près 2000 tonnes de miel. Donc tout apiculteur confondu, ça va de l'apiculteur de loisirs qui commence à commercialiser à l'apiculteur professionnel, et la production de miel de lavande effectivement représente environ 60% de cette quantité totale. Donc c'est une, vous comprenez bien que l'apiculture provençale est construite autour de ce miel-là, quoi. La baisse de production de ce miel-là, voire la disparition de ce miel-là, c'est assez catastrophique pour cette filière, quoi.
Silver est à côté de nous, à cette table, et il est équipé presque complètement. Enfin, il manque le masque et la petite soufflante à fumer, mais en tout cas, équipé presque complètement avec son vêtement de travail. La raison, c'est que tout simplement, il a installé ses ruches ici, à l'hôtel du département. Des abeilles qui, paraît-il, se sentent très très à l'aise en ville. Et on dit même que la biodiversité, la flore urbaine serait plus riche finalement et plus sûre pour les populations d'abeilles que celle des campagnes. Est-ce que c'est vrai, Silver?
On en parle souvent.
Le miel béton, par exemple, produit à Paris.
Oui, oui. C'est vrai qu'on a des problèmes d'affaiblissement de la biodiversité en campagne, qui est principalement dû aux désherbants et aux pesticides. Ça, c'est vrai. Ensuite aussi, il y a le débroussaillage abusif qui nous cause des gros problèmes en ce moment, tout autour des routes. Et donc, il y a la flore méditerranéenne, ça s'appauvrit. Donc, on a des problèmes d'affaiblissement de colonies dus, on pense, à des carences en pollen et en nectar. Donc, oui, il est possible qu'en ville, les petits jardins qui sont arrosés, qui sont plantés par des maraîchers, par des arbos, des arboriculteurs méditerranéens, ils assurent en fait une diversité qui apporte aux abeilles, au béton, si on veut, des ressources.
Peut-être pour conclure sur ce sujet du miel, Christian Ernst, à part l'inévitable, l'incontournable magret grillé au miel, est-ce qu'il y a une recette qui vous vient à l'esprit et qui utilise le miel ?
Ah ben, y en a plein, hein. Y a plein. Moi, ne serait-ce que celle qu'on a fait totalement improvisée pour l'inauguration ici. Donc, c'était vendredi matin, on est allé chercher du miel et on a fait un veau, un petit carpaccio de veau fumé sur une bruschetta de pain et brousse. Avec du fromage de chèvre et...
Alors je confirme pour l'avoir goûté, c'est délicieux.
Ah, vous l'avez goûté? Ouais. C'était, et on a fait un petit caramel au miel, des glacés au vinaigre de miel. On a trouvé ça chez un producteur, là, juste à côté. Et avec des petites noisettes grillées dessus, voilà, ça peut être très bon, tout simple.
Salé, je vous le confirme. On se retrouve dans quelques secondes pour parler cette fois-ci des productions de fruits dans la région. Et on écoute Banana Boat Song, c'est Harry Belafonte.
Daylight come and me want go home. Work all night and a drink a rum.
Daylight come and me want go home.
Stack banana till the morning come.
Daylight come and me want go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me want go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me want go home.
Live
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and me want go home.
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and me want go home.
De, is a day, oh. A beautiful bunch, a ripe banana.
Daylight come and me want go home.
Hide the deadly black tarantula.
Daylight come and me want go home.
Live
6 foot, 7 foot.
Sucré maison, émission, un plateau pour évoquer les délices sucrées. On vient de parler un grand moment du miel, on va maintenant parler des fruits. Étienne Colliot, vous êtes directeur adjoint de la Chambre d'agriculture. Peut-être sur cette complémentarité entre élevage et agriculture qu'on a commencé à évoquer. Il faut vraiment que ces professions fonctionnent ensemble.
Effectivement, le département des Bouches-du-Rhône a cette particularité qu'il est extrêmement diversifié d'un point de vue agricole. Les Bouches-du-Rhône, ça commence au Sainte-Marie-de-la-Mer avec l'élevage extensif et la riziculture. Ça va jusqu'à Trets et les productions viticoles. C'est le bord de mer et la banlieue d'Avignon avec Château-Renard et les productions fruitières et légumières. Et ça passe par des zones steppiques comme en Croix où il y a de la production ovine, les ovins qui sont installés. Donc on est un des départements les plus diversifiés d'un point de vue agricole de France. Et cette complémentarité entre tous les producteurs et toutes les productions est extrêmement importante. Et c'est ce qui fait, je dirais, tout le piquant de notre travail à la Chambre d'agriculture, puisqu'on a des salariés, des conseillers qui interviennent sur toutes ces différentes filières, sauf quand elles sont couvertes par des associations spécialisées comme l'ADAPI, on l'a évoqué tout à l'heure.
Alors, les fruits de ce terroir sont réputés pour de grandes qualités gustatives. Il y a de très nombreux exemples. Et effectivement, lorsqu'on achète, par exemple, des fraises et qu'elles, on est un peu dans la saison là en ce moment, et qu'elles viennent de la région, ben on sent qu'elles sont très goûteuses. En revanche, celles qui ont été produites dans les mers de plastique du sud de l'Europe le sont évidemment beaucoup moins. Comment, pour des producteurs régionaux, résister à cette pression et à cette globalisation des marchés? Il y a la question de la compétitivité, j'imagine, qui entre en ligne de compte.
Je crois que vous l'avez cité, hein, la problématique de l'agriculture dans les Bouches-du-Rhône et en France en général, c'est une agriculture qui est consommatrice de main-d'œuvre, qui demande beaucoup de main-d'œuvre, mais une main-d'œuvre qui est extrêmement chère et qui a du mal à être en compétition avec des pays où la main-d'œuvre est moins chère. Donc le créneau sur lequel se positionnent les producteurs, c'est essentiellement les créneaux de la qualité. On est un département avec énormément de signes de qualité. La promotion des signes de qualité, la promotion de la proximité. Je crois qu'aujourd'hui, à Terroir 13, les visiteurs ont pu le remarquer. On a mis en avant, avec notre partenaire, le Conseil Général, toutes les démarches de proximité, de vente directe. C'est aussi un créneau sur lequel les producteurs des Bouches-du-Rhône se positionnent pour justement être présents. Parce que les consommateurs sont de plus en plus demandeurs de qualité, de proximité et de plus en plus sensibilisés à toutes les questions environnementales et de bilan carbone, par exemple. Donc les fruits et légumes qui traversent la mer pour venir jusqu'à nos étals, ça commence à les interpeller et donc ils s'intéressent à ces notions de proximité.
Une notion de proximité et puis aussi une dimension européenne. Cette émission diffusée lundi est enregistrée dimanche. Vous n'êtes pas sans le savoir, c'est un jour d'élection précisément. Sans langue de bois, est-ce que le contexte réglementaire européen vous simplifie la vie ou est-ce qu'il vous rend parfois les choses compliquées?
Le contexte européen et le réglementaire européen et parfois nous complexifie la vie. Et il n'est pas aussi unitaire qu'on pourrait le croire. Une des grosses problématiques est la question des produits phytosanitaires. Hein. Vous évoquiez le terme pesticide tout à l'heure. Nous, on préfère le terme produits phytosanitaires ou phytopharmaceutiques, puisque c'est des médicaments qu'on met aux plantes. Les règlements ne sont pas les mêmes dans les différents pays européens. Et si les frontières sont totalement ouvertes pour la circulation des produits, il faut savoir que, en fonction du pays de provenance, les produits phytosanitaires utilisés diffèrent. Et certains produits interdits en France sont autorisés dans d'autres pays européens. Ce qui amène une distorsion, quelque part, entre les producteurs. Une distorsion supplémentaire qui complique le travail des producteurs.
À propos des soins et des médicaments pour les plantes qui se sentiraient avoir quelques vapeurs, justement, est-ce que, et on voit ici dans ce salon Terroir 13 de nombreux producteurs afficher le label de l'agriculture biologique, quelle part représente-t-elle dans l'ensemble de l'agriculture et notamment de la production fruitière ici dans cette région de Provence? Est-ce qu'elle est en développement?
C'est en développement. La part exacte, je pourrais pas vous le dire, mais c'est en développement. Je sais qu'un département voisin, la Drôme, est le premier département de production biologique de France. En région PACA, on le talonne. Il y a beaucoup de producteurs qui s'intéressent à la production biologique, en particulier en viticulture, en oléiculture, en maraîchage. En production fruitière, c'est un petit peu plus compliqué, il faut le savoir, puisque c'est des productions qui ont énormément de pression, et ceux qui ont quelques arbres fruitiers dans leur jardin le savent bien, énormément de pression, en particulier d'insectes. Donc si on veut avoir une production économiquement rentable, puisque les producteurs sont avant tout des agents économiques qui vivent de leur métier, c'est compliqué de produire en agriculture biologique, en arboriculture, mais à travers la recherche de nouvelles variétés, on commence à avoir des choses intéressantes et des producteurs qui se convertissent de plus en plus.
Étienne Colliot, vous l'évoquiez il y a un instant, une part importante du prix de vente de ces fruits tient au coût de la main-d'œuvre, qui est ici évidemment plus cher que dans d'autres pays, plus cher peut-être que dans les mers de plastique que je citais tout à l'heure du sud de l'Espagne, plus cher que dans les pays de l'Est. Est-ce que la Chambre d'agriculture, est-ce que il y a une sorte de labellisation des producteurs qui s'engagent à respecter, notamment en termes de contrat de travail, les employés agricoles, saisonniers ou permanents, qui travaillent dans les exploitations de la région?
Alors, il n'est pas question de labellisation, hein. Je crois qu'il y a une réglementation et qu'elle s'applique à une réglementation française et qu'elle s'applique à tous. Et la Chambre d'agriculture est là pour faire passer l'information sur cette réglementation et pour informer les producteurs de cette réglementation et de tout ce qu'elle entraîne. Donc, quand il y a une réglementation, il n'y a pas de labellisation. Tout un chacun est citoyen avant tout et donc doit se conformer à cette réglementation. La Chambre d'agriculture, par contre, se positionne sur l'appui aux producteurs pour gérer leurs relations avec leur personnel, pour travailler avec les chefs d'exploitation, les responsables d'entreprises, puisque ce sont des entreprises agricoles, pour tout ce qui est gestion sociale des salariés. Et donc on apporte un appui aux agriculteurs qui le demandent sur ces questions-là.
On voit bien que cette évocation du terroir et des produits du terroir ne nous éloigne pas des réalités sociales, économiques, voire même politiques, bien au contraire. Christian Ernst, le rapport avec les producteurs, producteurs de légumes et producteurs de fruits, c'est évidemment un élément essentiel pour un restaurant. Les producteurs, vous les rencontrez directement ou vous allez au marché pour acheter vos produits ?
Alors, on n'a pas beaucoup d'options par rapport au temps qu'on a d'obligation dans la cuisine, hein, puisque bon, je vais appeler ça l'atelier de production. Donc moi, j'ai fait une démarche d'aller au marché bio le mercredi, mais à côté de ça, on est obligé de se faire livrer par des centrales type Pomona. Moi, je travaille avec eux et bon, je suis relativement content parce que sous la demande, on va dire, ils développent des gammes bio, ce qui nous intéresse énormément. D'ailleurs, nous, à la rentrée en septembre, on va créer quelque chose qui n'existait pas à Marseille. On va livrer 9 crèches en produits bio. On va faire les repas pour les enfants. C'est des micro-crèches bio. Donc, qui on va les livrer tous les jours. On va fabriquer chez nous et livrer en transport frigorifique avec des véhicules électriques, avec des petits scooters électriques. On va livrer donc tous les jours ces repas. Donc, le bio, je crois qu'on est tous concernés. On utilise le maximum de produits d'agriculture, d'éleveurs. Moi, je travaille, par exemple, pour le pigeon avec la Monica. On travaille avec des abattoirs pour le cabri. Bon, c'est vrai qu'on est un restaurant un petit peu haut de gamme, donc on utilise forcément des produits un petit peu pointus,
dont il faut vraiment connaître la traçabilité, l'origine.
Mais c'est relativement difficile pour des gens comme nous d'avoir assez de temps et d'avoir des gens qui sont susceptibles de nous livrer en temps et en heure parce que eux, ils sont comme nous, ils sont débordés aussi. Enfin, ils travaillent dans leur terre ou dans leur exploitation. Et c'est là qu'il y a un petit peu la problématique parce que nous, on a des clients à qui on doit proposer une gamme de 6 entrées, 6 plats, 6 desserts. On doit les nourrir en 1h30 le midi et en 2h30 le soir. Et ces gens-là, et je pense que bon, ça va dans le mode de vie, quoi. On peut de place sur une réflexion, enfin, qui est de dire, bon, ben voilà, ça prend du temps de bien faire les choses. Et plus personne ne veut l'admettre, ça, quoi.
On va prendre le temps, nous, d'écouter quelques instants de musique avant tout à l'heure d'évoquer, après le miel et les fruits, le chocolat. Bah tiens, justement, Olivia Ruiz, la femme chocolat.
Je n'aimais pas beaucoup l'école. les habitués, les gens de passage sur tout l'été, joyeux bordel dans mon café. Écorché mon visage, écorché mes genoux, écorché mon petit cœur tout mou. Balayé la terrasse, envolé le bout de joue, envolé les miettes de nous.
Terroir 13, où nous enregistrons ce plateau, c'est un salon, c'est une manifestation ouverte et même destinée au grand public. En effet, la gastronomie n'est pas un produit de luxe chic et cher, réservé à une élite, ou du moins si elle l'est parfois, on ne saurait la réduire à cela. Monsieur Ménot, le chocolat, c'est un bon exemple de ça. C'est à la fois un produit très courant, la tablette de chocolat qui vaut pas grand-chose, dont on bourrait les poches des soldats pendant la guerre, quand il n'y avait pas autre chose à manger. Et puis c'est aussi un produit extraordinairement raffiné, du moins tel que vous le pratiquez. C'est à la fois populaire et en même temps quelque chose qui est un peu luxueux, le chocolat.
Bonjour. Enfin, le chocolat, c'est très particulier et ça s'adresse pratiquement à tout le monde. Hein. Je veux dire, c'est comme vous dites, la petite tablette, mais fait maintenant, on travaille de plus en plus sur des grands crus. Donc, vous savez, c'est comme le vin. Donc, il y a chaque fois une origine différente, donc un goût complètement différent. Contrairement aussi.
Est-ce qu'il y a des millésimes aussi, des bonnes années, des mauvaises années pour ces crus?
Oui, ça revient exactement au même. Hein. Donc, je vous dis, bon, en plus, suivant, il y a plusieurs couvertures. Donc, pour avoir, disons, un chocolat qui garde le goût parfait, donc c'est pas assemblage. Donc celui-là, il sera toujours le même goût. Bon, par contre, il y a, je vous disais, c'est comme dans le vin et ça se fait de plus en plus. C'est-à-dire, ce sont des petites récoltes et là, comme le vin, d'une année à l'autre, suivant la saison, suivant le truc, ça peut changer complètement le goût. Alors que c'est le même goût.
Alors le chocolat et peut-être plus particulièrement le cacao a longtemps eu une image à laquelle on a associé une image coloniale. C'est la fameuse image du tirailleur sénégalais qui ornait tous les paquets de bananias. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une autre manière d'importer ce produit, peut-être un rapport de commerce équitable qui se substitue à ce qui était autrefois le commerce colonial? Vous-même, où est-ce que vous achetez vos fèves?
C'est-à-dire que à la base déjà c'était c'est Christophe Colomb en Amérique centrale, sauf que Christophe Colomb s'y est pas intéressé du tout. Donc par contre après il y a eu la conquête espagnole avec Cortés qui lui a vu qu'il y avait beaucoup d'argent à faire, donc il s'en est occupé. Et après, effectivement, bon, ben, les Français, ça a été la Côte d'Ivoire, ça a été le truc comme ça. Mais enfin, bon, maintenant, on revient de plus en plus. Si ce n'est équitable, c'est déjà, je vous dis, bon, le goût change. Et donc, les gens recherchent de plus en plus les petites.
Des petits producteurs dont on est certain qu'ils garantissent une qualité du produit.
C'est d'abord leur propre intérêt. Donc, Mais c'est vrai que de plus en plus ils aident les petits producteurs. Mais il faut quand même savoir qu'un petit producteur, même s'il est bien, il mangera jamais du chocolat parce que pour lui ce sera beaucoup trop cher.
Alors dans ce plateau intitulé Sucré Maison, on a beaucoup parlé de sucre et de goût sucré. Le chocolat est un peu particulier parce que c'est un goût qui est entre le sucré et l'amer et l'amertume. Et on dit même que les chocolats les meilleurs sont les chocolats les plus amers. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je dis ce qui compte, c'est le terroir. Et contrairement à l'idée reçue, c'est pas parce qu'il sera plus fort en pourcentage qu'il sera meilleur ou qu'il sera d'ailleurs beaucoup plus amer. Donc je vous dis, c'est une question d'équilibre.
Christian Ernst.
Moi, j'aime bien utiliser le chocolat d'une manière détournée, ce qui est beaucoup plus difficile avec le miel. Là, par exemple, on fait un pigeon au cacao et au foie gras, voilà, avec un petit jus de pigeon au cacao et fèves tonkin. Et ça donne vraiment un petit côté, vous le disiez, une amertume, mais très suave, avec la texture assez soyeuse du pigeon et ce goût un petit peu prononcé aussi dans l'amertume, qui c'est relativement intéressant et ça rehausse le goût.
Je crois d'ailleurs qu'en Amérique centrale, l'usage du cacao, l'usage du chocolat, c'est un usage qui va très très souvent dans la cuisine, enfin, y compris salée. Et même historiquement, les Mayas ou Incas, je ne sais plus, oui, en tout cas, les Indiens Aztèque, amérindiens, mélangeaient les fèves de cacao avec du piment et ce n'était pas du tout sucré, leur mixture.
Oui, parce que le cacao était très très amer. C'était d'ailleurs le breuvage du roi qui en buvait jusqu'à 50 tasses par jour. Et donc, comme on le faisait mousser, et comme c'était très amer, donc on mettait plus tard du miel, parce que avec l'Espagne, ils ont planté de la canne à sucre. Mais fait, au départ, c'était de la vanille, c'était du piment pour faire
quand,
passer.
Quand vous parliez du roi, c'était quel numéro? Louis XIV, Louis XV?
Non, du roi aztèque.
Ah, du roi aztèque, pardon. Mais ma question, c'était à quel moment est-ce que le cacao a été introduit en France? Enfin, l'usage du cacao, à l'instant que Colomb ne s'y était pas intéressé, mais à partir de quel moment
Cortés,
on a commencé à voir?
Cortés, de suite après. Par contre, lui a vu, parce que bon, la fève était aussi moyen de faire monnaie, d'échange. Et donc lui s'est vraiment intéressé. Et donc après, bon, c'est parti en Espagne. Et donc de fait, l'Espagne, ça a traversé la frontière. Et donc c'est venu en France par Bayonne. D'ailleurs, la porte vient d'émettre des timbres à l'odeur chocolat.
On a vu tout à l'heure en discutant avec nos apiculteurs que la plupart des exploitations sont plutôt de taille artisanale. On n'a pas vraiment d'usine de production de miel. En revanche, pour le chocolat, on a un peu l'impression que là, il y a deux conceptions qui s'opposent. Il y a celle des artisans qui produisent un chocolat de très bonne qualité, comme celui que vous proposez. Et puis, il y a des grandes industries chocolatières qui font des mélanges dans lesquels il y a un peu de cacao et éventuellement d'autres choses dedans. Et on a beaucoup parlé de cette question de l'appellation chocolat. Est-ce qu'on peut appeler chocolat quelque chose dans lequel il y a autre chose que du chocolat?
Autre chose, Fega. En fait,
du cacao.
Il y a quand même un label pur beurre de fait cacao, donc ce qui évite à certaines de mettre de l'huile, ou alors si maintenant ils en mettent, de fait l'écrire. Par contre, nous sommes, fait, personnellement, on travaille aussi avec du miel, avec de l'hydromel qui est le fait nectar des dieux à base de miel aussi. Donc on garde aussi la et pour le sucré salé, mettons, nous on fait un chocolat à base d'arachide et de cacahuètes salées et qui passe très bien. Donc,
oui, parce que là, tout à l'heure, Christian Reins nous livrait sa recette de pigeon au chocolat et on voyait comment est-ce que des plats salés pouvaient utiliser le chocolat, et est-ce qu'on peut fabriquer des chocolats à l'échalote, à l'oignon, ou avec des goûts assez étranges comme ça. Est-ce qu'on peut vraiment marier le chocolat avec beaucoup d'autres produits? Puis qu'est-ce que vous en pensez?
Personnellement, nous, on travaille pas mal sur les épices, hein. Sur aussi les fleurs.
Les poivres.
La rose, poivre, sur toutes sortes de...
Chocolat, safran aussi, ça marche très
sur
bien.
Sur des chocolats
aussi,
blancs, voilà. Sur des chocolats noirs.
Le chocolat noir. On fait une ganache au safran, on fait à l'eau de rose, avec une rose piquante, parce que justement, il y a d'abord le goût de la rose et les épines qui viennent après, donc c'est un mélange aussi avec un piment. Et on travaille sur l'eau de fleur d'orange aussi, parce qu'on a fait un chocolat pour l'artisan parfumeur. Et donc on travaille beaucoup aussi sur la violette, sur le pastis, puisque à Marseille aussi on le fait.
Chocolat au pastis.
Oui, un chocolat au pastis, un chocolat à l'absinthe, un chocolat fait, on a 35 qualités, donc ça va assez. Un chocolat au miel, bien sûr. Miel de truffe, avec du pollen, avec de l'hydromel. Donc en fait, ce qu'il faut respecter, c'est comme un tout, c'est l'équilibre. Donc,
On arrive bientôt au terme de cette émission. Je voudrais que, pour la conclure, on parle un petit peu d'éducation du goût et de transmission. Christian Ernst, je l'évoquais tout à l'heure, dans votre restaurant, le moment, vous y accueillez de nombreux ateliers, des ateliers destinés aux enfants, dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi évidemment des ateliers destinés aux adultes, des moments de rencontre. Est-ce qu'aujourd'hui, pour un restaurant, et notamment un restaurant qui a une certaine notoriété, qui a une certaine réputation, c'est une nouvelle gamme de produits, c'est-à-dire qu'on ne va plus uniquement au restaurant maintenant pour déjeuner ou pour dîner, mais on y va aussi pour découvrir, on y va pour rencontrer des chefs, on y va pour s'informer?
Alors j'ai vraiment l'impression que, bon, effectivement, il y a une évolution de la consommation du restaurant par rapport à la clientèle, qui quand même demande en général de l'information sur la provenance des produits, sur la façon dont sont faites les choses. On sent qu'il y a un intérêt grandissant pour le côté fabrication. Parce que ben, je crois qu'il n'y a pas un magazine ou une chaîne de télé qui n'a pas une rubrique gastronomie aujourd'hui. Et bon, c'est vrai que certains chefs sont starisés, peut-être même trop des fois. Donc je pense qu'il y a, il y a une très bonne mouvance là-dedans, quoi. Maintenant, je crois qu'il faut différencier l'engagement d'un chef ou de certaines personnes et l'aspect marketing facile qui peut être exploité dans ce système-là. Effectivement, bon, nous, on fait des cours, on fait de la formation, que ce soit pour les adultes ou les enfants, voire même pour les professionnels, puisqu'on travaille aussi avec des entreprises qui sont soucieux d'améliorer leur qualité. Mais effectivement, on parle d'éducation du goût, mais je crois que ça se passe vraiment au début, et c'est avec les enfants qu'il faut travailler, mais avec les adultes aussi, surtout sur Marseille. Enfin, Marseille, je peux en parler, moi je suis marseillais, je pense qu'il y a une culture gastronomique relativement pauvre et que les gens commencent à évoluer petit à petit. Bon, pendant longtemps, ça a été quand même la culture de la pâte et de la pizza. Aujourd'hui, on s'aperçoit, et on le fait chez nous, malgré qu'on soit estampillé restaurant gastronomique, on propose des formules à 19 et 25 euros où on mange tous les jours des produits frais, sains, des poissons qui ne sont pas d'élevage. Parce que moi, je refuse d'acheter des poissons d'élevage. Je préfère travailler avec des sardines ou du maquereau, mais faire des choses intéressantes. Par exemple, on fait des sardines aux agrumes et à la réglisse. C'est relativement intéressant à manger. Et pourtant, bon, c'est des choses qu'on peut se permettre de ne pas vendre cher. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a quand même du savoir-faire, il y a de l'engagement. Et je crois que c'est là-dessus que les chefs doivent travailler. Et c'est là-dessus que les consommateurs doivent aussi se porter. Bon, après, effectivement, on ne peut pas manger des truffes pour 20 euros et y a tout doit avoir un prix. Et on parlait de la main-d'œuvre tout à l'heure. On sait très bien que ce sont des professions qui nécessitent beaucoup de main-d'œuvre pour sortir un beau résultat.
Étienne Couliot, sur ces questions de l'accessibilité et de la transmission.
Oui, sur la question de l'apprentissage du goût par les jeunes générations, je pense que je voulais intervenir sur une opération qui nous tient tous à cœur à la Chambre d'agriculture et avec notre partenaire, le Conseil général. C'est l'opération qu'on mène avec les collèges, dans les cantines des collèges, avec un approvisionnement en produits de proximité des Bouches-du-Rhône. Donc, avec le Conseil général, nous approvisionnons les cantines des collèges en produits locaux et on collabore avec les chefs des cantines. Donc la restauration scolaire n'est plus ce qu'elle était, elle évolue et je crois que le partenariat qu'on mène avec les chefs des cantines des collèges est extrêmement intéressant et ça contribue à développer le goût de nos jeunes et à leur réapprendre à manger effectivement autre chose que des pizzas et des pâtes et à manger des fruits et légumes de manière joyeuse.
Le prochain rendez-vous, c'est à la rentrée scolaire prochaine ?
Le prochain rendez-vous, c'est déjà cette fin d'année avec des produits que nos jeunes aiment beaucoup. Et la rentrée prochaine, effectivement, rebelote après 3 ans d'expérience. Aujourd'hui, 60 collèges du département collaborent avec nous. Et je crois que on transformera l'essai quand tous les collèges seront partenaires de l'opération.
Rapidement, en deux mots, pour conclure ce plateau, vos actualités, l'ADAPI, peut-être des rendez-vous à annoncer pour les prochains jours, des salons professionnels tout au long de l'été. On retrouvera les producteurs de miel sur les marchés. Rémi, Silver, on vous retrouve sur les marchés, vous vendez directement ?
Pas vraiment, non. En ce moment, en fait, c'est la fête de la transhumance, si on veut. Si vous voulez, on monte toutes les ruches qui sont en plaine et celles qui sont en montagne sur le plateau de Valensole, Puymoisson, Riès. Donc en ce moment, c'est le plus gros de l'activité, c'est le déplacement des colonies pour faire ce miel qu'on retrouvera à l'automne sur les salons.
Ah, oui. Qui s'effectue de nuit, justement pour que toutes les abeilles soient intérieures. C'est des périodes assez dures, on va dire, assez intenses.
Chaudes pour vous. Voilà. Christian Ernst, une actualité au moment, bientôt ?
Actualité tous les jours avec les cours de cuisine du samedi pour les adultes, dimanche matin pour les parents-enfants et mercredi après-midi pour les enfants. Et puis bien sûr, bon, tout ce qu'on peut proposer en parallèle, Gastronomar en septembre avec démonstration de cuisine et accueil de chefs étrangers au restaurant. On va confier les rênes du resto peut-être à un Turc, comme on en parlait tout à l'heure, ou à un Italien. Voilà.
Serge Ménot vous attend dans sa chocolaterie, ça s'appelle Chocoatelier, c'est grand rue, pas très loin de la rue de la République. Peut-être le dernier mot au Conservatoire des Cuisines, Monsieur Biojou, quelques mots sur les prochains rendez-vous.
Les prochains rendez-vous, donc tout à l'heure nous avons le concours de recettes des particuliers, hein. Il va y avoir des jurys qui vont délibérer tout à l'heure. Et puis au mois de juillet à Saint-Rémy-de-Provence, le 17 et 18 juillet, il y aura un grand rendez-vous, le terroir des Alpilles, où le conservatoire mettra en œuvre aussi des produits locaux, avec le lancement de la poire Guyot. Nous aurons rendez-vous dernier samedi du mois d'août, marché paysan de Graveson, où nous aurons aussi les cuisiniers du village de Graveson qui seront en démonstration de cuisine avec les produits des producteurs de Graveson. En septembre, nous aurons Camargue gourmande avec les syndicats des riziculteurs, la viande de taureau. En même temps, nous aurons le trophée des maraîchers à Château-Renard, où nous aurons, avec les maîtres restaurateurs et le conservatoire, des démonstrations de cuisine sur les produits de la plaine de Château-Renard.
Une actualité très complète. J'imagine qu'on peut en suivre toutes les péripéties sur le site internet du Conservatoire des Cuisines.
Oui, tout à fait. Et voilà, donc on vous donne rendez-vous dans tous ces rendez-vous-là sur notre région.
Merci à tous, Christian Ernst, restaurateur au moment, Jean-Marc Biojou, conservatoire du Conservatoire des Cuisines, Étienne Colliot, directeur adjoint de la Chambre d'Agriculture, Monsieur Ménot, chocolatier qui est installé à la boutique Chocoatel, Philippe Picard de l'ADAPI, et puis nos deux apiculteurs, Rémi et Silver. À la technique, c'était Sébastien Gély. La suite de la thématique dévoration, c'est jusqu'à demain sur les 3-8. Tout à l'heure, dans le 5 à 7, Joa nous invite à cuisiner son mari à l'africaine, tout un programme. À 23h, Radio Lingus pour se lécher, entre autres, les babines. Un programme de la radio nantaise, Jet FM. Et puis à minuit, un Ear Cooking, c'est une performance de Christophe Modica. Le programme de demain et les émissions en écoute sont sur le site www.grenouille888.org.